Bonjour à toutes et à tous. Je suis content de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous cet après-midi. Content de venir aussi en famille avec Priscilla et la petite Eliana. Et donc Amos, c'est vraiment un texte intéressant. Donc vous êtes déjà au chapitre 6. Aujourd'hui est juste comme ce fut nécessaire pour moi, me remettre dans le livre, et peut-être des gens qui, cet après-midi, rejoignent cette série sans avoir suivi tout le livre d'Amos. Donc, juste redonner quelques éléments de contexte en première partie. Ensuite, on verra, la deuxième partie qu'on verra, c'est justement cette notion d'une prospérité insouciante, dangereuse. Donc ça, ce sera un des points qu'on verra ensemble. Et ensuite, on verra un appel à un retour à l'Éternel et à l'humilité. Alors, le prophète Amos, son métier, c'est le même que celui de David. Donc, c'est un berger. Et c'est la période où le royaume d'Israël a été divisé en deux. Donc, il y a eu la tribu de Juda. Les tribus d'Israël, donc deux royaumes, parfois ensemble, parfois les uns contre les autres. Et Amos, il est dans la tribu, dans le royaume de Juda, et Dieu le choisit pour aller parler au roi Jéroboam et au peuple. Et ce qui se passe en Israël à ce moment-là, c'est que le roi Jéroboam a accumulé beaucoup de richesses, et c'est une période faste, une période de richesse pour ce peuple. Mais c'est aussi une période spirituellement déserte. Et le roi Jéroboam s'est tourné vers les idoles. Et Amos est là pour rappeler et reprendre le peuple. Mais ce qui est très intéressant, c'est que quand on se tourne vers les idoles, et ça c'est ce qui ressort dans les premiers chapitres du livre d'Amos, c'est que quand on se tourne vers les idoles, on accomplit des choses qui mettent à mal le droit et la justice. Et ces deux termes-là vont revenir très souvent dans les premiers chapitres de Amos. Vous avez mis à mal le droit et la justice, vous avez piétiné le droit et la justice. Là, on peut juste prendre le verset, chapitre 5, verset 12. « Je le sais, vos crimes sont nombreux, vos péchés se sont multipliés, vous opprimez le juste, vous recevez des pots de vin, vous violez le droit des pauvres à la porte de la ville. » Et vraiment, ce que va mettre en évidence Amos, c'est non seulement le fait que le peuple a rompu, a trahi l'alliance qu'il avait faite avec son Dieu. Parce que le peuple est quand même le peuple d'Israël, le peuple choisi. Ils ont choisi l'Éternel, l'Éternel les a choisis, et pourtant, ils ont rompu cette alliance en se tournant vers d'autres dieux, en allant vers des dieux qui ne sont pas les véritables dieux, les dieux de la guerre, les dieux de la sexualité, les dieux de la prospérité, Baal et d'autres. Donc non seulement ils ont rompu cette alliance, ils ne cherchent plus leur appui, leur soutien en l'Éternel, mais de façon très intéressante, parce qu'ils cherchent leur appui autre part qu'en Dieu, eh bien la moralité dans le peuple d'Israël abaissé. Le malheureux est méprisé. Les pauvres sont mis de côté. On trompe les autres. Voilà le contexte dans lequel Amos est en train de parler. Et au chapitre 5, il y aura un appel permanent à revenir à l'Éternel. Verset 15, « Haïssez le mal, aimez ce qui est bien, rétablissez le droit en justice. » Alors peut-être l'Éternel des armées aura compassion du reste des descendants de Joseph. Il parle, il appelle, il leur dit « Revenez, revenez, revenez. » Mais malheureusement, le peuple ne revient pas. Et un dernier appel au chapitre 5, verset 24, « Que le droit jaillisse comme un cours d'eau et la justice comme un torrent qui n'arrête jamais de couler. » Et ce qui est d'autant plus gênant pour le peuple, et pour Dieu par rapport au peuple, c'est qu'ils continuent aussi leurs sacrifices envers Dieu. Donc ils ont des sacrifices envers Baal, ils ont des sacrifices envers Dieu, mais en plus, la droiture n'est pas là. Et pour Dieu, c'est vraiment un peuple qui est devenu hypocrite. Et il va utiliser des termes très très forts par rapport au sacrifice que ces hommes et ces femmes vont faire. Il va dire, imaginez, on vient de chanter cet après-midi, et là on entend Dieu qui dit, comme au verset 23, « Éloignez de moi le bruit de vos luttes, de vos cantiques. » Vous imaginez ? Je ne veux plus entendre vos guitares. Ben, c'est exactement ce que Dieu disait à ce peuple. Parce que, pourquoi ? Parce que vous semblez dans l'extérieur adorer Dieu, mais votre cœur est loin de moi. Et comment Dieu le voit ? C'est parce que le droit et la justice ne sont pas respectés. Le droit et la justice ne sont pas respectés. Et pour Dieu, le fait que le droit et la justice ne soient pas respectés, c'est que Dieu n'est pas respecté. Et ça, c'est un premier appel, je trouve, Amos, de l'importance de l'authenticité de la foi chrétienne, de la foi en général et de la foi chrétienne. C'est le signe que, lorsque le droit et la justice ne sont pas respectés, qu'il y a eu un éloignement par rapport à notre Dieu. Et c'est un avertissement aussi pour nous, de dire le droit et la justice sont des marques de celui qui marche avec Jésus. Les louanges, les cantiques sont bons, sont importants. La présence à l'église est bonne. La méditation de la parole est importante. Mais la marche avec Jésus, la marche avec Dieu, est marquée par une vie transformée. C'est Jacques qui parlera de cette notion de « montre-moi ta foi sans les œuvres et je te montrerai ma foi par les œuvres ». Où il dira que la foi sans les œuvres, et je me rappelle qu'on a eu ici l'occasion de méditer l'épître de Jacques l'année dernière, la foi sans les œuvres est morte. C'est Jésus qui parlera à ses pharisiens, où il dira que vous êtes des hypocrites, vous lavez l'extérieur, mais l'intérieur n'est que rapine. Et c'est vraiment un appel à dire, pour Dieu, quand quelqu'un ne marche pas dans la droiture et la justice, c'est un signe que cette personne, en fait, s'est éloignée de lui. Alors la droiture, c'est quoi ? La droiture, c'est chercher à faire les choses correctement, honnêtement, proprement. Être droit, c'est donner à ceux qui doivent recevoir ce qu'ils doivent recevoir, c'est ne pas chercher à voler, ne pas chercher à tromper, ne pas chercher à faire du mal à l'autre ou à tromper, que ce soit au travail, que ce soit dans nos relations. Et la justice, c'est quoi ? La justice, c'est permettre, c'est la justice, j'aimerais bien mettre le mot justice sociale un petit peu derrière, cette notion de dire l'opprimé doit aussi recevoir mon respect. Il a le droit à une vie digne. Et ça, dans toute l'Ancien Testament, Dieu a toujours eu soin que le peuple d'Israël respecte et prenne soin des plus opprimés de la société. Les orphelins, les veuves, les étrangers, les pauvres, les esclaves, etc. Et donc, je trouve qu'un texte résume bien dans le Nouveau Testament cette notion, c'est cette notion de dire, c'est dans 1 Jean, qui dira, si tu n'aimes pas ton frère, comment peux-tu dire que tu aimes Dieu ? C'est fort, hein ? C'est vrai que nous, on pourrait dire quelqu'un qui aime Dieu, ben, c'est quelqu'un qui va à l'église avec passion, qui loue vraiment, qui lit sa parole, et qui sert peut-être même à l'église. Mais la parole de Dieu, elle va très loin. Elle dit, ben, si cette personne-là n'aime pas son prochain, ben, cette personne-là ne connaît pas Dieu. C'est fort, hein ? C'est quand même étonnant. Eh bien, c'est un peu ce que le prophète Amos est en train de leur dire. Là, le droit et la justice que vous avez, c'est pas ce que Dieu demande. Et donc, c'est que vous ne connaissez pas Dieu, vous déshonorez Dieu, malgré vos cantiques, malgré vos sacrifices. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi est-ce que la parole de Dieu peut affirmer quelque chose d'aussi fort? Que si quelqu'un n'aime pas son prochain, c'est qu'il ne connaît pas Dieu. Si quelqu'un ne marche pas dans la droiture et la justice, c'est qu'il n'est pas en véritable adoration avec son Dieu. C'est parce que lorsque vous vous approchez de Dieu, de tout votre cœur et réellement, si le peuple d'Israël s'était attaché à son Dieu de tout son cœur, eh bien la nature de Dieu elle-même se serait déversée sur elle. Si ils étaient en contact avec ce Dieu d'amour, si nous sommes chaque jour en contact avec ce Dieu bienveillant qui nous a aimés, alors la nature du Dieu d'amour impacte notre vie et nous pousse à aimer l'autre. Et si je n'arrive pas à aimer l'autre, c'est que la nature du Dieu d'amour ne m'a pas encore impacté et ne m'a pas encore transformé. Vous connaissez ce verset ? Les mauvaises compagnies, corrompent les bonnes mœurs. Il y a aussi cette expression qui dit « Dis-moi qui est ton ami et je te dirai qui tu es ». À force de passer du temps avec quelqu'un, on va commencer à lui ressembler. À force de passer du temps avec des personnes, avec un groupe, on va être impacté par leur attitude, leur façon d'être, leur façon de faire. Eh bien, à force de passer du temps avec Dieu, à force d'écouter sa parole, à force de chercher sa face, à force de chercher à l'honorer, eh bien, les caractéristiques de Dieu vont s'affecter à nous. Et là, le peuple d'Israël s'est éloigné. Et là, Amos est envoyé pour leur rappeler cela, et les rappeler au retour à l'Éternel. Et c'est dans ce contexte-là que Amos 6 arrive. Et Amos 6, il va mettre l'accent sur une insouciance et une indifférence du peuple. Parce qu'ils sont prospères. Et comme je le disais tout à l'heure, Jéroboam est devenu prospère. Et la prospérité peut être dangereuse. C'est David qui dira au Seigneur, « Ne me donne pas la pauvreté de peur que je ne vole contre toi et que je ne pêche, mais ne me donne pas trop de prospérité de peur que je ne t'oublie et que je dise qui est Dieu. » Eh bien, le peuple d'Israël est arrivé à ce niveau-là. Ils ont des grands palais, ils sont riches, et ils se disent, ben, puisqu'on est riche et qu'on a un grand palais, c'est qu'on est dans la bonne direction. Et souvent, on peut se dire ça, n'est-ce pas, dans la vie en général. Quand des gens réussissent, ils disent « Ah ben, j'ai compris les choses ». Aujourd'hui, sur Internet, il y a plein de propositions de dire « Vous voulez être riche en quelques heures ou quelques jours ou... ?» Et puis dire « Regardez-moi, voilà, moi j'ai fait comme ça, puisque j'ai réussi, c'est que ça marche pour tout le monde et j'ai tout compris à la vie ». Et donc, quand on réussit, quand on prospère matériellement, on peut se dire « On a tout compris ». Et on peut même se dire « On a même compris comment Dieu fonctionne ». Et on n'a pas forcément besoin de lui. Et c'est pour ça qu'il remet en cause cette prospérité dangereuse, cette insouciance dangereuse. C'est pour ça qu'il va dire « Malheur à vous qui vivez tranquille dans Sion, et vous qui vous croyez bien en sécurité sur les montagnes de Samarie. Oui, vous les grands de la première nation, des nations, vous toutes qui accourez vers la communauté d'Israël. » Et il essaye de leur rappeler que ce n'est pas toujours le cas, que ce n'est pas parce que la prospérité est là pour une ville que ça veut dire qu'elle va demeurer à jamais et que la punition ne tombera pas. Et il leur donne des exemples, qu'eux-mêmes connaissent, puisque Jéroboam, le roi, a conquis certaines de ces villes, dont il va mentionner au verset 2. « Rendez-vous à Calné pour voir ce qui s'est passé. Puis de là, rendez-vous à Hamath, la grande cité, puis descendez à Gath, la ville philistine, constatez si ces villes sont en meilleur état que ces royaumes-ci ou si leur territoire est plus grand que le vôtre. » Il y a une indifférence, une insouciance dangereuse où finalement ils se reposent et disent « Vous inquiétez pas, on est bien. » Malgré le fait que le prophète crie « Revenez à l'Éternel, repentez-vous !» Ils disent « Mais non, on est bien quand même là. » Il va utiliser des expressions de repos, le verset 4, où voilà « allongé ». sur des lits incrustés d'ivoire, où vous vautrez sur des divans moelleux, vous mangez des béliers choisis dans le troupeau, des veaux de premier choix pris dans les tables, vous qui improvisez au son du luth, qui composez comme David, vous buvez vos vins à pleine coupe, vous soignez vos têtes de parfum. Vous vous dites en paix. Mais la destruction qui menace tout le royaume de Joseph ne vous affecte pas, c'est pourquoi vous irez en tête des déportés. Et s'en sera fini des banquets des fêtards vautrés sur leur divan. Et là, il déclare qu'il y aura un jour du jugement. Le moment de la prospérité peut être effectivement dangereux, mais l'histoire doit nous rappeler et nous montrer que ça n'est pas toujours ainsi. Que la réussite d'une nation, d'un peuple, d'un pays peut du jour au lendemain basculer. Et l'histoire nous le montre. Déjà en leur temps, dans l'Ancien Testament, on rappelle qu'on avait fait Daniel aussi dans votre église, et on a vu la suite des royaumes qui se sont succédés. Rome de Babylone, grand royaume, brillant, hop, écrasé par le royaume de Perse et des Mèdes. Puis le royaume de Perse et des Mèdes, ensuite détruit et défait par les Grecs. Et ensuite, le royaume, le Père l'Empire romain. À ce moment-là, à chaque fois qu'ils arrivaient, ils disaient « Ah, c'est les plus grands, c'est les plus forts. » Mais ça vient et ça part. Si on prend aujourd'hui, est-ce que vous saviez qu'à un moment, le Portugal, c'était un empire immense ? Avec le Brésil, avec des pays en Afrique. Et aujourd'hui, bon ben, ça s'est bien réduit. On ne parle pas de toutes ces civilisations qui ont disparu dans certaines régions du monde. À un moment ou à un autre, les choses s'arrêtent, tout passe, et ça doit être un rappel. Et ça doit être un rappel aussi peut-être pour les personnes qui pensent que la vie ne termine pas. Et en France, il y a des statistiques qui montrent que les Français essayent d'oublier la mort. On veut oublier qu'on va mourir. On fait tout pour ne pas penser à la mort. Et la mort est un rappel que la vie a une fin et qu'il serait bon de se poser la question de l'avenir de son âme et qu'il serait bon de se poser la question de sa condition devant Dieu. Et c'est un rappel, peut-être cet après-midi, je ne connais pas tout le monde, peut-être que vous n'êtes pas en règle devant Dieu. Peut-être que Dieu aussi s'adresse à vous ce matin en disant « Reviens à moi, abandonne le chemin de l'injustice ». Et viens chercher le chemin de la droiture et de la justice. Peut-être que Dieu vous appelle et vous dit de rétablir votre vie avec lui. Peut-être que ce matin, le Seigneur vous prévient et dit « Toute vie a une fin. » Et il est important de se poser devant son Dieu et de dire « Seigneur, je corrige ma vie. » Et c'est pour ça qu'on est content dans la foi chrétienne de savoir que Jésus-Christ est mort sur la croix. Pour que tous ceux et toutes celles qui ont vécu une vie qui n'a pas honoré Dieu, tous ceux et toutes celles qui ont vécu une vie qui mériterait punition, tous ceux et toutes celles qui ont vécu une vie qui était insouciante ou qui n'a pas aimé son prochain, eh bien Jésus est venu porter nos fautes et restaurer notre marche avec Dieu, pour que nous puissions à nouveau être appelés enfants de Dieu. Eh bien cet après-midi, Dieu tend la main à quelques-uns en disant « Rétablis ta vie avec moi. Reçois le pardon. Reçois la grâce que je veux te donner et rentre à nouveau dans le chemin. Ne sois pas comme le peuple d'Israël qui s'est éloigné et qui, 40 ans après ce que Amos a écrit, aura la punition, verra la destruction et sera déporté hors de son pays. » Indifférence insouciante, dangereuse. Mais ce qui est intéressant dans Amos, c'est qu'il terminera l'histoire avec, et vous le verrez à la fin, avec une très belle espérance, une espérance de reconstruction. Mais en attendant, il veut vraiment faire comprendre au peuple qu'il y a eu un brisement qui s'est passé. Et j'aime beaucoup l'expression où il dira « Est-ce que les chevaux courent sur un rocher ? Est-ce qu'on y laboure avec des bœufs ? Pourquoi avez-vous changé le droit en poison, verset 12, le fruit de la justice en absinthe? Vous vous réjouissez de ce qui n'est que néant, vous dites, n'est-ce pas notre force que nous avons, par notre force que nous avons acquis de la puissance? Eh bien, Dieu appelle à se remettre en cause. Parce que lorsqu'on ne se remet plus en cause, on est aveuglé et on accomplit des choses qui n'ont plus de sens. Le droit devient poison. La justice devient absinthe. Lorsque l'homme et la femme, l'homme et la femme sur cette terre s'éloignent de Dieu, alors les choses les plus horribles peuvent se passer. Je pense qu'on lit toutes et tous les journaux, on apprend tous les nouvelles de ce qui se passe dans ce monde. C'est un monde malheureux, un monde triste qui nous entoure, où dans toutes les parties du monde, on a des histoires tellement rocambolesques de meurtres, de vols, de pillages, de malversations. Mais si en fait, c'est les conséquences normales et naturelles de s'éloigner de notre Dieu. Et je crois que Amos encourage le peuple à l'humilité et à se remettre en cause. Et pour nous, même en tant que chrétiens, il est toujours bon de se poser la question de notre état spirituel. Et toujours bon de se poser la question de où est-ce qu'on en est avec Dieu. Et la solution pour pouvoir rester proche de Dieu et rester dans le bon chemin, eh bien, c'est Jésus, je trouve, qui le donne. On le trouve en Jean chapitre 15, on le trouvera dans bien d'autres passages, mais voilà ce que Jésus dira en Jean chapitre 15 que je vous propose de prendre. Je vous prends l'ouverture verset 9. Comme le Père m'a toujours aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, tout comme moi-même j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Tout cela, je vous le dis pour que la joie qui est la mienne vous remplisse vous aussi et qu'ainsi votre joie soit complète. Comment faire pour garder la ligne? Et c'est pas toujours facile. Je pense qu'on a tous des exemples de chrétiens qui peut-être marchaient bien et puis d'un coup ils abandonnent le chemin. Même des pasteurs qui marchaient très bien et d'un coup ils se trouvent avec la femme de son prochain ou ils se trouvent attrapés dans des problèmes de malversation et de corruption ou d'abus spirituels. Comment faire pour que on puisse marcher et ne pas s'éloigner comme ce peuple qui avait fait une alliance avec Dieu, qui était content d'être avec le Seigneur? Comment savez-vous si vous demain vous garderez la foi et que vous resterez dans le chemin que Dieu veut? Eh bien, le premier appel, c'est vraiment l'humilité. Dans ce même chapitre, Jean, chapitre 15, il dira « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Quelle que soit notre prospérité matérielle, physique, émotionnelle, sociale, restons humbles et soyons convaincus que c'est par la grâce de Jésus que nous sommes là où nous sommes. Pas que par nos propres efforts, pas nos propres accomplissements, sinon le danger nous guette. Et la deuxième chose, deuxième encouragement, c'est rester proche du Seigneur en gardant et en demeurant dans son amour. Il y a un verset, un chapitre, psaume 91 dira, je vous le lis, verset 1, « Celui qui s'abrite tout près du Très-Haut repose en lieu sûr, à l'ombre du Tout-Puissant. » Que le Seigneur nous aide à, chaque jour, prendre le temps. Et je ne sais pas quelles sont les opportunités que vous avez pour prendre du temps avec votre Seigneur et rester en contact avec lui de façon permanente. Alors on le sait, et on l'apprend aux enfants, hein, vous connaissez ce chant, « Lis ta Bible, priez chaque jour, priez chaque jour. » Et donc, je trouve qu'il y a un bon résumé derrière. Hein. C'est très simple, hein, 4 ans, on l'apprend, et puis même quand t'es pasteur, tu te le rechantes, parce que c'est important. Mais au-delà de lire ta Bible et prier chaque jour, qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est la personne de Jésus-Christ. Pourquoi je vais prier? C'est pas juste pour dire j'ai prié et je coche la case. C'est parce que je veux m'adresser à Jésus, chercher son soutien et me fortifier en lui. Pourquoi je vais lire la parole de Dieu? C'est parce que je veux l'entendre, l'écouter, le fait qu'il me parle et qu'il touche mon cœur. Et je vous encourage vraiment à avoir un espace, de façon très concrète, où vous pouvez vraiment, avec un frère, si vous êtes un homme, ou un groupe de frères, avec une sœur, si vous êtes une femme, ou un groupe de sœurs, vous encourager, et la parole de Dieu dit, à l'amour et aux bonnes œuvres, vous encourager à rester connecté au Seigneur Jésus. Parce que parfois, dans les églises, peut-être certains vont venir tous les dimanches au culte, mais ça fait un an qu'il ne lit plus la Bible chez lui. Et c'est possible. Si personne ne lui pose la question, c'est possible. Ou sa vie de prière est un désert actuellement et personne ne le sait. Prenons un espace. Décidons d'avoir cet espace. Et là, ça rejoint la notion d'humilité. Un espace où je suis autorisé à être qui je suis, à dire, voilà, aujourd'hui, ça va pas, les frères, priez pour moi. Pour pouvoir garder cet attachement au Seigneur. Car le danger, les dangers sont nombreux, les tentations sont grandes, mais Dieu nous a permis d'être dans un corps où nous pouvons nous soutenir mutuellement et où nous n'allons pas arriver tout seuls. Mais grâce à la communauté des frères et des sœurs, nous pouvons y arriver. Je propose aussi, très souvent, certains vont venir me voir et vont me dire « Je ne sais pas comment commencer la Bible, est-ce que je commence par la Genèse ou quoi que ce soit ?» Prenez, il y a beaucoup de plans de lecture qui sont disponibles, mais prenez un plan, commencez par un plan, si vous n'avez pas l'habitude, mais prenez le temps de vous connecter à votre Seigneur, prendre le temps d'écouter sa parole. Et lorsqu'on lit la parole de Dieu, posons-nous la question très concrète, une fois que j'ai lu ce texte, comment cela me touche, moi ? En quoi cela me concerne aussi ? Trois questions que j'aime bien qu'on se pose si on commence la lecture de la parole. La première, c'est qu'est-ce que raconte ce texte ? Et voilà, Amos 6, il parle de luxe, d'insouciance, de punition qui va arriver. Quel est le message de ce texte ? Ah ben voilà, les conséquences lorsqu'on s'éloigne de Dieu, c'est que on va être châtié et puni. Et troisièmement, qu'est-ce que moi j'en tire ? Comment est-ce que je change quelque chose dans ma vie ? Donc trois questions qui peuvent vous aider à méditer la parole de Dieu, trois questions simples. Et j'encourage aussi à avoir un temps de prière avant et après la lecture. Pourquoi ? Pour pas que cette lecture reste juste intellectuelle, mais pour qu'elle puisse vraiment toucher mon cœur. Seigneur, prenons le cas très concret de ce qu'on dit, merci pour ce que tu m'apprends sur l'importance de la droiture et de la justice. Et je te prie de m'aider à rester proche de toi et à être aussi de celles et de ceux qui marchent dans la droiture et la justice et qui ne s'éloignent pas de toi. Aujourd'hui, avec mon voisin, aujourd'hui dans mon travail où j'ai cette situation, ce dossier à gérer, etc., etc. Donc voilà quelques conseils pratiques, les amis, pour pouvoir creuser la parole de Dieu et rester proche de notre Seigneur. Ayez un frère, une sœur, ou plusieurs frères, plusieurs sœurs. Ayez une méditation régulière, quotidienne, où vous vous confrontez à la parole de Dieu et vous la laissez vous toucher. Je dirais aussi, soyez convaincus que Dieu peut et veut vous parler. Parce que parfois, on n'entend plus Dieu parce qu'on oublie même qu'il peut nous parler. Et je trouve que le peuple d'Israël, quand les prophètes arrivaient, ils se disaient même plus que Dieu pouvait parler à travers les prophètes. Hein. Oh, ben, c'est pas Dieu qui parle à travers toi. Ben, Dieu parle encore aujourd'hui et peut vous parler de façon très très précise. Très très précise. Moi, je me rappelle ce jour où j'étais dans la rue et puis un monsieur, que je pense qu'il n'allait pas très bien, m'a fait un bras d'honneur. J'étais jeune, j'avais 20 ans. Et oh là là, ça m'a mis en colère. Il fait un bras d'honneur, voilà. Une insulte, quoi. Mais j'étais pressé, donc je rentre chez moi, et je rentre chez moi en grande colère. Vraiment colérique. Et j'ai imaginé juste une chose, donc j'avais 20 ans, attention, hein, j'étais pas encore pasteur. C'était de le frapper. Je voulais juste, je veux dire, oh là là, j'aurais dû le frapper, en plus, voilà, j'étais jeune, etc., etc. Et donc, dans ma tête, j'avais vraiment cette colère qui montait en moi, et je me suis dit, mais pour qui il se prend ce monsieur? Il m'a fait cette insulte. Et là, je me mets devant mon Dieu, je prends sa parole, Et le premier texte sur lequel je tombe, c'est psaume 37. Ne t'irrite pas contre les méchants. Ah. Ne te mets pas en colère contre les méchants. Mets l'Éternel, en l'Éternel ta confiance. Et là, je vois des textes comme verset 8. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, car en fin de compte, ce serait mal faire. Est-ce que c'était un hasard que je prenne la parole de Dieu et le premier texte sur lequel je tombe, c'était « Laisse la colère, abandonne la fureur ». C'était vraiment ce que Dieu voulait me dire, mais Dieu parle encore précisément. Je ne sais pas ce que vous traversez aujourd'hui, je ne sais pas où est-ce que vous en êtes dans votre marche avec Dieu, mais croyez que Dieu veut et peut vous parler. Il peut vous éclairer sur ce que vous traversez, il peut vous aider à avancer dans ce que vous traversez. Ne soyons pas comme le peuple d'Israël qui a oublié l'Éternel et qui se dit dans sa prospérité, je vais bien et je n'ai plus besoin de l'Éternel. Mais venons à notre Seigneur. Et enfin, ne soyons pas comme le peuple d'Israël qui est devenu indifférent à la souffrance de son prochain, mais gardons autour de nous un regard bienveillant. Je suis très encouragé. Hier, il y avait quelques frères et sœurs de l'église de Saint-Maur qui sont venus à Lagny pour soutenir et entourer des réfugiés. Et je pense que c'est vraiment un fruit de l'Évangile. Lorsqu'on se connecte au Seigneur, le Seigneur nous pousse vers ceux et celles qui sont en souffrance. Restons attentifs à l'autre. N'oublions pas ce verset qui dit « Celui, si tu aimes ton Dieu, tu aimes ton prochain. » Le plus grand des commandements, tu aimeras ton Dieu et tu aimeras ton prochain. Ces deux-là ne sont pas à différencier. Et restons humbles, soyons conscients que là où nous en sommes, c'est la grâce de Dieu. C'est lui qui nous soutient et qui nous permet d'être là. Et sachons être généreux envers Dieu et envers notre prochain. Car Dieu fait pleuvoir sur les bons comme sur les mauvais. Je vais encore prier. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole qui nous fait du bien. Merci pour ta parole qui nous rappelle que tu nous appelles à marcher dans la droiture et la justice. Seigneur Jésus, merci parce que tu es ce Dieu qui libère et qui encourage et qui édifie. Et tu vois qu'on a vraiment besoin de toi. Et cet après-midi, tu sais celles et ceux qui ont besoin de se rappeler que tu es ce Dieu de grâce. Tu sais celles et ceux qui ont besoin de se rappeler que tu es ce Dieu qui pousse à la droiture et à la justice, qui pousse à l'amour du prochain. Aide-nous à nous rappeler que nous serons un jour, que nos actions seront un jour jugées et que nous avons besoin du pardon de Christ. Et aide-nous à suivre le chemin que Christ nous propose, lui qui a marché parfaitement sur cette terre. Je te prie de renouveler les forces des uns et des autres, d'encourager l'Église de Saint-Maur dans sa marche pour toi et dans son édification avec toi. Fais de nous des hommes et des femmes qui aimons passer du temps avec toi, qui aimons rester à tes côtés. En ton nom, Jésus. Amen.